c'est pas du vent.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Non, il n'y a pas de stress. C'est pas intéressant.
C'est pas du vent.
Viens ici.
Bueno, aquí lo más importante es la gente.
Le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, savez-vous ce qu'est une forêt ? Mais elle nous prend pour des ignares ou quoi, pensez-vous ? Eh bien non, pas du tout. C'est juste que pour la plupart des gens, une forêt, c'est tout simplement un endroit où il y a plein d'arbres. Par exemple, la Suède, où nous irons dans un instant, se vante d'avoir le pays qui a le plus vaste couvert forestier d'Europe, car 70% de son territoire est occupé par des arbres. Sauf que des arbres, ça ne suffit pas pour faire une forêt. Comme va nous l'expliquer notre invité, l'éminent botaniste Francis Allais, il faut distinguer un champ d'arbres plantés d'une forêt naturelle. Cela n'a rien à voir en termes de biodiversité et de capacité à stocker du carbone. Une mise au point bien utile, alors que pour lutter contre le dérèglement climatique, la plantation d'arbres est à la mode. Attention aux mauvaises solutions.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Francis Allais.
Bonjour.
Vous êtes botaniste, vous êtes connu internationalement pour vos expéditions dans la canopée des forêts tropicales avec le radeau des cimes, une nacelle qui permet de monter au sommet des grands arbres pour observer justement cette canopée qui abrite, hein, vous l'avez si souvent répété, une densité incroyable de biodiversité. Vos travaux sur l'architecture des arbres sont aussi mondialement connus. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont le dernier « L'étonnante vie des plantes » publié chez Actes Sud transmet votre passion des plantes aux enfants avec vos magnifiques dessins réalisés à la main. Alors tout le monde a l'impression de savoir ce qu'est un arbre, mais lorsque l'on vous lit, finalement, on se dit qu'on n'a rien compris. Alors comment est-ce que vous, vous définiriez un arbre ?
Bon, c'est difficile parce qu'il y en a tellement que je ne peux pas faire un dessin. Non, ce que je voudrais, c'est revenir sur cette histoire de la comparaison entre une forêt, une vraie forêt, et une plantation. Je voudrais dire que c'est non seulement différent, mais que c'est presque l'inverse. Avant tout, je voudrais dire que je ne suis pas du tout contre les plantations. On a besoin de bois, et donc il faut faire des plantations et les utiliser pour couvrir nos besoins en bois. Donc les plantations ne me gênent pas du tout. Par contre, ce qui me gêne beaucoup, contre quoi je n'arrêterai jamais de rouspéter, c'est quand on essaye de nous faire croire que les plantations sont des forêts. Ah là, c'est complètement idiot, c'est absurde. Et en plus, on voit très bien à qui ça profite. La forêt, elle est faite de très nombreuses espèces d'arbres et d'âges divers, et qui sont venus spontanément. C'est un système qui n'a rien coûté à personne, puisque c'est naturel, et c'est très résilient. Ça résiste au feu, ça résiste aux tempêtes, et ça résiste même aux parasites. Alors, les plantations d'arbres, à l'inverse, c'est très peu d'espèces. Une, généralement, c'est une seule espèce. Parfois deux, on commence à se mettre à faire des plantations un tout petit peu plus riches, mais une ou deux espèces, c'est presque rien. Ajoutez à ça qu'ils ont tous le même âge, puisqu'on les a plantés. Ajoutez à ça que c'est fait pour être exploité. Et comme ils ont tous le même âge, si on les exploite, ça fait une coupe à blanc. Et en plus, on sort le bois, puisqu'on les a plantés pour avoir du bois. Par conséquent, tout ce que l'arbre a sorti du sol, je ne parle pas de l'eau, mais je parle des minéraux, tout ce que l'arbre a sorti du sol en matière de minéraux, c'est exporté, ça ne revient pas au sol. Par conséquent, c'est de l'agriculture.
Alors cette méprise entre champs d'arbres et forêts est très fréquente. Par exemple, quand on pense à la Suède, il y a des images qui viennent aussitôt à l'esprit, hein, le modèle social suédois, Ikea, les chansons d'Abba et la forêt. La Suède est avec la Finlande le pays le plus boisé d'Europe. Les arbres couvrent 70% de sa superficie. Les Suédois ont la liberté d'y faire tout ce qu'ils veulent, même sur des propriétés privées. C'est le berceau des trolls et de tout un pan de la culture nationale. Et quand on se promène en Suède, on a donc l'impression fausse, on l'a compris puisqu'on vous a écouté, que la forêt est partout. Alors, ce ne sont pas des forêts, ce sont des champs d'arbres qui sont coupés et replantés tous les 40 à 50 ans. Il ne resterait en Suède qu'un peu plus de 10% de forêts naturelles que les défenseurs de l'environnement essaient de défendre comme les derniers oasis de forêts sauvages. C'est ce qu'a constaté le correspondant de RFI, Frédéric Faux.
En Suède, il y a deux façons de voir la forêt. Il y a celle vendue par Visit Värmland, l'office du tourisme d'une des plus importantes régions forestières du pays, qui vous fait rencontrer, au détour d'un bosquet, une créature féminine coiffée d'une couronne de feuilles et dotée d'une queue de renard.
C'est typiquement suédois, la skogsrö. Elle séduit les hommes et les emmène. Ici, vous êtes dans la forêt profonde, un peu comme au Canada. Un petit Canada, avec le plus long fleuve de Suède, la Kalrävlen, de grands lacs, beaucoup de nature et pas beaucoup de gens.
Et puis, vous avez celle du naturaliste Sébastien Kirpu, qui s'arrête sur le bas-côté d'une route, un peu au hasard, et s'enfonce sous les frondaisons. Il nous décrit une réalité très différente.
Voilà une forêt faite par l'homme. Mais je préfère dire une plantation. C'est vraiment difficile pour moi de dire que c'est une forêt. Le premier signe, c'est que tous les arbres sont de la même hauteur. Leur largeur est aussi plus ou moins la même. Et ils sont tous alignés, on ne voit pas d'arbres morts. Et si vous regardez l'écorce, elle est plate comme du papier. Et toutes les branches sortent du tronc en angle droit au lieu de pendre. La majorité des forêts en Suède a moins de 60 ans. Ces arbres ont peut-être 45 ans, mais ils sont presque aussi grands que ceux d'une forêt naturelle. Ça pousse comme de la mauvaise herbe. On est sûrement sur un ancien marais ou une ancienne prairie, replantée avec de jeunes arbres. On a mis des épicéas car ils donnent beaucoup de fibres. Et cette fibre est appréciée par les usines de pâte à papier qui en font de la pulpe. On peut dire que c'est un écosystème mort.
En voiture, sur les routes suédoises, il est inévitable d'avoir l'impression que la forêt est partout, avec son moutonnement sombre qui s'étend jusqu'à l'horizon. Elle occupe 70% du territoire national, un record en Europe, et s'immisce jusqu'au cœur des villes. L'Allemansrätt, le libre accès à la nature, est un droit inscrit dans la Constitution qui permet à chacun de la parcourir, d'y cueillir baies et champignons. Mais selon l'Université suédoise des sciences agricoles, le pays ne compte que 3,5 millions d'hectares de forêts de plus de 140 ans, soit 12,6% du total. Et cela commence à inquiéter. Le quotidien Dagens Nyheter publie depuis plusieurs semaines une série d'enquêtes sur les abus de l'industrie forestière qui continue les coupes à blanc dans les forêts anciennes. Sur les écrans, un documentaire, Omskogen, fait le même réquisitoire, en images. Et cela ne laisse pas les spectateurs insensibles.
Oh mon Dieu, merde alors. I'm aware of the
problem. Je suis conscient du problème, c'est partout en Suède. Ça me met en colère.
C'est horrible, mais c'est la réalité. À titre individuel, on ne peut pas faire grand-chose, il faudrait un grand mouvement.
J'ai une maison à la campagne, à 80 km de Stockholm, un peu plus de 3 hectares et demi que j'essaie de protéger. Mais il se passe là-bas les mêmes choses que ce que l'on voit dans le film. J'ai des voisins qui rasent tout. On garde un peu d'arbres le long des routes, comme ça les gens ne s'en rendent pas compte. Mais juste 20 mètres derrière, il n'y a plus rien. Ils sont avides, ils veulent couper autant qu'ils peuvent.
how a natural forest actually is.
On va voir comment une forêt naturelle ça fonctionne. C'est si étonnant et fantastique.
Voilà, on retrouve Sébastien Kerpou. On a quitté cette plantation d'arbres qui ne ressemblait à rien. Et il m'emmène dans la réserve de Skatuden, à une centaine de kilomètres au nord de Stockholm. Alors le sol ici est plus accidenté, hein, couvert de mousse. Quand on marche, on doit écarter des épicéas, des pins de toute taille.
Certains troncs sont plus larges, d'autres plus fins. Certains arbres sont grands, d'autres plus petits. Nous sommes dans une forêt qui probablement n'a jamais été coupée. Je voudrais juste vous montrer quelques espèces.
Attention là, Sébastien sort sa loupe.
You see this gray color of the on the bark? And if you look very close,
vous voyez ces plaques grises sur l'écorce? En regardant de près, on voit dessus des points blancs, des points noirs ici aussi. C'est une espèce de lichen qui ne pousse que sur les épicéas âgés de plus de 100 ans. Et ici, vous avez Godreia repens, une petite orchidée qu'on ne trouve que dans les forêts anciennes. C'est une espèce menacée. Si vous coupez la forêt, elle disparaît et ne reviendra pas. Ce sont des indicateurs. Quand vous les trouvez dans une forêt, alors vous savez qu'elle est soumise à la succession naturelle des espèces. En Suède, vous ne trouvez jamais de forêt plantée âgée de 100, 120 ans ou plus, car on les coupe avant pour en faire du papier ou de la pulpe. Le meilleur indice pour savoir si une forêt est ancienne ou si elle a été plantée par l'homme est de voir s'il y a des arbres morts. On va voir si on peut en trouver par là.
Bon, ça, ce n'est pas dur à trouver ici. Moi, j'en vois partout. Certains sont encore debout, complètement creux. D'autres sont couchés au sol, recouverts de mousse. Alors parfois, on se croirait vraiment dans une forêt tropicale.
Celui-là est mort récemment. Il y a encore l'écorce, les petites branches. Et si on va un peu plus loin par là, on a un très vieux pin, mort, encore debout. Il n'y a plus d'écorce, le bois périphérique est en train de tomber. Mais le bois dur, le cœur de l'arbre, est encore là. Il est plein de résine, très dense. La nature va mettre des siècles à la décomposer. Et il y a énormément d'espèces qui dépendent de ce bois dur. Et là, de nouveaux arbres sont en train de naître. Mais ça prend du temps. Par exemple, cet épicéa, avec un tronc qui fait 3 cm de diamètre, peut avoir 50 ans. Et celui-là, 10 cm de diamètre, a peut-être 150 ans. C'est fou. Pour avoir une vraie forêt, il faut que les arbres qui grandissent à partir de petites graines passent toute leur vie dans le même endroit pour y devenir du bois mort et s'y décomposer. Ce bois mort est probablement le milieu où l'on trouve le plus de biodiversité dans nos forêts suédoises. Il est le substrat de nombreuses espèces de lichens, de champignons et d'insectes.
Voilà, c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'on a un sol si épais dans ces forêts. Parfois, on a l'impression qu'on va s'enfoncer complètement dans la mousse.
Le sol forestier dans ces régions boréales est la plus grande zone de stockage de CO2 de notre planète. L'essentiel du carbone est en fait dans le sol. La décomposition des arbres est si lente, à cause de ces étés courts, des longs hivers, qu'elle permet l'émergence d'un écosystème très spécial de champignons mycorhiziens qui vivent en symbiose avec la forêt et qui créent ce stock de carbone dans le sol. Donc, dans notre hémisphère nord, plus la forêt est ancienne, plus le stock de carbone dans le sol est important. Si nous coupons une forêt comme celle-ci, le soleil va commencer à décomposer cette matière organique qui va retourner dans l'atmosphère sous forme de CO2. Et si vous plantez de nouveaux arbres, le stock de carbone n'atteindra jamais le niveau qu'il avait avant la coupe. Donc, il y a plus d'avantages à avoir une forêt ancienne plutôt que de la couper et replanter pour avoir une nouvelle forêt. Car on ne plante pas de nouvelles forêts, on plante des arbres.
Två tungor har mitt hjärta.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Nous vous emmenons en Suède aujourd'hui, un pays recouvert à 70% de forêts. Enfin non, de champs d'arbres plutôt, de champs d'arbres cultivés pour être exploités. Seulement 10% de la forêt suédoise est encore naturelle. Un choix que le pays paye cher aujourd'hui, car comme l'a constaté notre correspondant Frédéric Faux, un champ d'arbres, c'est beaucoup plus fragile qu'une forêt. Där väser
det en orm. Si la biodiversité permet de s'adapter plus facilement aux bouleversements induits par le changement climatique, son absence peut expliquer en partie les fléaux qui se sont abattus récemment sur la Suède. Durant l'été 2018, des incendies inhabituels à ces latitudes ont consumé 25 000 hectares de forêt. Les arbres sont aussi fragilisés par le scolyte, un coléoptère xylophage favorisé par les vagues de chaleur, mais aussi par la monoculture du même arbre. L'une des régions les plus touchées est justement le Värmland, où Eva, militante à la Société suédoise de conservation de la nature, ne peut que constater les dégâts.
Donc on a un problème avec les insectes ravageurs qui mangent des sapins. On a énormément de sapins parce qu'il n'y a pas beaucoup de dans une forêt où il y a toutes sortes d'arbres de différents âges. Il y a beaucoup plus de plantations aujourd'hui avec uniquement un seul arbre à la fois et souvent justement le sapin. Donc il y a beaucoup de cet insecte qui est spécialisé uniquement dans les sapins. Ils mangent des arbres et puis il faut qu'ils coupent les arbres autour parce que ça se propage très vite. Et il y a aussi un problème avec la déforestation qu'ils font aujourd'hui. Quand ils coupent tous les arbres dans un endroit, ça stresse aussi la forêt et c'est pire en pire.
Et ce ne sont pas que des écologistes radicaux qui s'inquiètent de cette situation. Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, faisait récemment le même constat en présentant son plan climat à Bruxelles.
L'industrie forestière en Suède est très importante et le pays est maintenant en face du fait que ses forêts sont en moins bon état qu'avant. La Suède va devoir adapter sa stratégie au challenge de la hausse des températures, au besoin d'avoir des espèces d'arbres différentes, de préserver la biodiversité. Nous pouvons l'aider dans ce processus pour protéger nos citoyens des conséquences négatives du changement climatique.
Alors cette petite phrase, évidemment, a beaucoup fait réagir en Suède. On est quand même dans le pays de Greta Thunberg. Ici, le gouvernement veut atteindre la neutralité carbone dès 2045. Mais c'est aussi un pays où les produits forestiers représentent 10% des exportations, 120 000 emplois. Du côté des industriels, eh bien, on se défend aussi en rappelant que la Suède, surtout dans sa moitié sud, a perdu une grande part de ses arbres au cours de la révolution industrielle et qu'elle compte aujourd'hui deux fois plus de surface forestière qu'il y a un siècle. C'est vrai, mais il y a un truc. Voilà, j'ai pris le train à Stockholm pour me rendre à Bålsta. On est à 60 km de la capitale suédoise, sur un site appartenant à Sveaskog. Alors Sveaskog, c'est le plus grand propriétaire forestier de Suède, peut-être même d'Europe. Mais là, on va dans un endroit un peu particulier.
Je suis Marcus Johansson et je dirige cette pépinière d'arbres qui produit des épicéas et des pins, principalement.
Donc on est dans un endroit assez impressionnant, une très très grande surface avec beaucoup de serres, des entrepôts.
Le processus commence ici. Vous pouvez voir des plateaux vides qui sont amenés par le tapis roulant. On peut mettre 121 graines dans chacun. On met dans chaque godet la terre, la graine, et on recouvre avec de la sûre pour éviter les mauvaises herbes. Maintenant, les plateaux sont prêts. On peut aller voir la prochaine étape.
And this is one of our middle size
Voilà une de nos serres de taille moyenne, 25 mètres de large sur 100 mètres de long. Vous pouvez sentir que c'est plus chaud, ce sont de bonnes conditions. Les plateaux sont surélevés par des parpaings posés sur le sol. On arrose, on apporte de l'engrais, on a un système de chauffage qui maintient la température à 22 degrés pendant la phase de croissance. Une fois que la graine a germé, on peut mettre le plateau à l'extérieur. On a des spécialistes qui s'occupent de ça, contrôlent l'environnement. Cette pépinière existe depuis 50 ans. On a une très grande expérience. On a amené les plateaux le 18 mars. Aujourd'hui, on est le 30 et on peut déjà voir les premières pousses.
Voilà, donc ici, en seulement 12 jours, à l'intérieur de cette serre chauffée, on voit tous ces embryons d'arbres qui sont en train de pousser. Pour l'instant, ça ressemble à un brin d'herbe qui fait peut-être 2-3 cm de haut. Combien d'arbres on a ici ?
342 frames, 36 trays.
On a 342 cadres avec chacun 36 plateaux fois 121 graines. Ça fait 1,5 million de graines qui ont le potentiel de devenir des arbres. Ça représente une forêt de 600 hectares.
Si la Suède a besoin de produire tant d'arbres, c'est que sa technique d'exploitation privilégiée, c'est la coupe à blanc. On coupe, on replante, on recoupe, etc. C'est ce qui permet à la Suède, un pays disposant d'1% des forêts, de fournir 10% du bois et du papier utilisés dans le monde. Retour à Stockholm, donc, pour entendre les arguments de Swedish Forest Industries. C'est le lobby officiel des industriels du bois, donc un consortium très puissant où on ne se contente pas d'assumer les coupes à blanc, on leur trouve aussi beaucoup de vertus. C'est Viveka Beckman, la directrice, qui va nous recevoir.
Je représente l'industrie forestière suédoise avec 200 membres qui représentent des scieries, des papeteries. Ce qui m'attriste le plus dans ce débat, c'est que personne ne regarde la situation dans son ensemble. Concernant les coupes à blanc, il est maintenant établi que cette méthode de gestion est celle qui est la meilleure pour le climat, car elle favorise la croissance et la capture du carbone. Si vous faites une coupe à blanc et que vous replantez derrière, la croissance va être très importante, car on sélectionne les arbres, les plants les plus sains, les plus performants. C'est plus efficace. Et si vos arbres grandissent plus vite, ils capturent plus de carbone. Bien sûr, la biodiversité, c'est très important, mais on ne peut pas se focaliser uniquement sur ça.
Une affirmation qui ulcère les défenseurs de l'environnement. Pour l'expert et forestier Peter Lindgren, il faut revoir les modes d'exploitation.
J'ai travaillé dans cette industrie toute ma vie. L'endoctrinement à l'université forestière était de nous persuader à 100% que couper la forêt, faire de l'argent avec le bois, replanter des arbres, était un business fantastique. Mais c'est un désastre pour la nature. Quand vous faites une coupe à blanc, 80% de ce que vous enlevez va à plus ou moins long terme redevenir du CO2, car la matière organique va être transformée en produits à court terme, comme du papier toilette ou des choses comme ça. Il va falloir 30 ans avant que la nouvelle forêt commence à absorber du CO2 au même niveau que l'ancienne. Or, le climat ne peut pas se permettre d'attendre si longtemps.
Dans ce débat sur la forêt, chacun a ses arguments, mais le rapport de force n'est pas très équitable. Les défenseurs de l'environnement manifestent régulièrement pour défendre leur point de vue, mais aussi pour protester contre les abus de l'industrie forestière, qui ne respecte pas toujours la loi ou la contourne. Dans le documentaire « Omskogen » de Peter Magnusson, les témoignages allant dans ce sens sont très nombreux, comme celui de la naturaliste Malin Sahlin dans le Jämtland.
Vous ne pouvez pas toucher une espèce protégée, mais vous pouvez couper la forêt dans laquelle elle pousse.
ou celui de son collègue Rolf Lundqvist, qui témoigne sur un site de coupe dans le Dalarna.
On a étudié 8 permis de coupe dans cette zone. À la fin de cet examen, on s'est aperçu que 7 de ces permis concernaient des forêts qui avaient une importance écologique. Dans toutes les zones où nous avions fait notre inventaire, le propriétaire n'avait pas signalé les espèces que nous avions trouvées. Les autorités sont censées s'assurer que les propriétaires agissent de façon responsable, mais elles ne s'étaient même pas rendues sur le terrain. Si elles ne font pas leur travail, bien sûr que ceux qui sont sur le terrain ne vont pas se comporter correctement.
L'autre personne qui peut témoigner de ces abus, c'est Sébastien Kirpu, qui sillonne les forêts du nord au sud de la Suède pour en faire l'inventaire.
J'étais en train de travailler dans le comté de Norrbotten, en Laponie, l'été dernier. Et là, l'entreprise forestière nationale suédoise, Sveaskog, la plus grande d'Europe, commençait à couper une vieille forêt que les autorités de la région voulaient transformer en réserve naturelle. Sveaskog le savait. Ils sont allés là-haut avec leurs machines et ils commençaient à couper. Ça a été vraiment un coup de chance que je passe en voiture à cet endroit-là, à ce moment-là. J'ai vu ces machines, je me suis arrêté, je suis sorti et je leur ai dit « Hey, vous savez que cet endroit est plein d'espèces menacées et qu'il va devenir une réserve naturelle ?» Les gars sur les machines ont appelé leur patron. Ils ont répété ce que j'ai dit et leur patron leur a dit de partir tout de suite. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Il y a beaucoup d'ONG, mais en fait, on est assez peu sur le terrain à faire des inventaires. On est peut-être 25, 30 dans toute la Suède.
Sous la pression de l'industrie forestière, Sébastien Kirpu, qui travaillait pour le comté de Dalarna, a dû quitter son emploi. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres militants, il demande aussi un arrêt immédiat de l'exploitation dans les forêts anciennes.
Les zones légalement protégées en Suède, comme les réserves naturelles ou les parcs nationaux, ce n'est que 6% de la forêt productive. Partout ailleurs, vous pouvez faire ce que vous voulez, plus ou moins. Bien sûr, il y a ces certifications, FSC, PEFC, pour une gestion durable de la forêt. Mais vous savez, elles ne marchent pas en Suède. Il est très facile de contourner les règles. Et par conséquent, on continue à couper des forêts anciennes, même si on n'est pas supposé le faire selon ces certifications. Il n'y a pas vraiment de contrôle sur ce qui se passe en Suède. C'est pour ça que j'ai vraiment été heureux l'autre jour d'entendre Frans Timmermans. C'est bien de savoir que l'Union européenne dit à la Suède « Vous devez vous améliorer, car on est vraiment les pires. Nous n'avons plus que quelques parcelles de forêts naturelles, comme des oasis dans un désert de plantations. »
Une enquête forestière commandée par le gouvernement et rendue publique le 30 novembre dernier a suggéré la protection d'une ceinture de 100 km de large tout au long de la chaîne de montagnes qui sépare la Suède de la Norvège. La moindre des choses pour un pays qui, selon les défenseurs de l'environnement, ne se soucie guère de sa forêt, mais demande régulièrement dans les forums internationaux la protection des forêts tropicales d'Amazonie ou d'Afrique.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Nu går hon genom stan, stannar så. Och hon köper biljetten blå. Till det landet där drömmar väcks. Ljuset på biografen släcks. Men den filmen är seg och trist. Som den var när hon såg den sist. Hon kan varje scen utan till. Se hjältinnan som kysser sin jäkla. Tårarna som rinner stelnar i en stund sista bild. En sån fruktansvärd film. Hon går genom staden, tittar upp mot rymden. Raden utav bleka stjärnor. Som står högt över mörka hus.
reportage de Frédéric Faux réalisé par François Porcheron.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lances sur la mer quand ça te fait plaisir?
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous l'avez donc bien compris, chers auditeurs, un champ d'arbres et une forêt n'est pas pareil. Francis Allais, la Suède incarne bien finalement cette méprise entre les deux.
Ils n'ont jamais eu autant d'arbres et ils n'ont jamais eu aussi peu de forêts. Voilà.
Alors, il y a une difficulté éthique, politique même, hein, que Frédéric Faux, le correspondant de RFI, évoquait à la fin de son reportage. C'est le fait que les pays occidentaux réclament en permanence la préservation de la forêt amazonienne ou la préservation des forêts du bassin du Congo. Mais qu'est-ce qui nous permet à nous, occidentaux, de donner des leçons alors que finalement, on n'a pas su conserver nos propres forêts?
J'ai souffert de ça pendant toute ma vie dans les tropiques. J'allais voir des chefs de province, par exemple à Sumatra, dans l'île de Sumatra. Et je leur dis, vous avez des forêts primaires magnifiques. Faites un effort, gardez-les. Et alors le gars qui n'est pas idiot du tout est très au courant, il me dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait de vos forêts primaires en Europe ?» Ben, je suis obligé de reconnaître qu'on les a toutes coupées. Voilà. Et donc, on n'est pas crédible dans ce domaine-là.
Oui, on n'est pas crédible et pourtant, il y a énormément de « yaka faucon » hein, dans les conférences internationales ou dans les systèmes internationaux de compensation où les multinationales disent « préservons certains pans de la forêt africaine, par exemple, pour compenser nos propres émissions de carbone ».
Non, ça, ça ne marche pas. C'est évident, c'est de la mauvaise foi. Parce que d'abord, ils ne protègent rien du tout. Vous avez déjà vu des industriels du bois protéger une forêt? Ah, pour moi, ça serait vraiment un événement totalement original.
Alors, il y a un argument qui peut jouer en faveur de la protection des forêts du bassin du Congo, c'est qu'elles abritent encore une biodiversité extrêmement riche. Mais cette biodiversité est aujourd'hui menacée par les changements climatiques. C'est le résultat d'une étude internationale coordonnée par les chercheurs de l'IRD et du CIRAD. Bonjour, Bonaventure Sonquet.
Bonjour, Anne-Cécile.
Vous êtes botaniste à l'université de Yaoundé et co-auteur de cette étude dont la première conclusion est que les forêts d'Afrique centrale abritent une biodiversité exceptionnelle. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter cette richesse?
Ma passion pour cette forêt date d'il y a, j'avais 18 ans, 19 ans. Et quand je mettais le pied en forêt, je me posais la question, est-ce que toutes ces plantes sont différentes ou bien elles sont toutes les mêmes? Et pendant que j'arrive à l'université, je me dis, j'aurais bien voulu être capable de les nommer. Alors, on nous apprend que la forêt tropicale est riche et petit à petit, je me suis approché et j'ai réalisé jusqu'à quel point la biodiversité végétale autour de nous était riche. Et c'est dans cet esprit que je me lance donc comme botaniste à la découverte des forêts tropicales, d'abord en Afrique, d'abord au Cameroun, comme jeune étudiant. Et petit à petit, je cherche à connaître plus que ça, c'est-à-dire toute l'Afrique et surtout l'Afrique centrale. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il y a une multitude de paysages, et qui dit multitude de paysages dit aussi différentes sortes d'espèces. Et je crois que le cœur du problème, la réalité, c'est que l'Afrique centrale est composée de beaucoup de paysages et c'est ce qui justifie en grande partie cette riche biodiversité qui nous entoure et qui a besoin d'être protégée.
Alors, cette biodiversité, le problème, je le disais, hein, vous avez étudié plus de 6 millions d'arbres, 185 000 parcelles réparties dans 5 pays. C'est colossal, hein, c'est une étude d'une ampleur inédite. Et ce qui ressort, au-delà de la richesse de cette biodiversité que vous aimez beaucoup, on l'a bien compris, c'est que c'est qu'elle est menacée, cette biodiversité, aujourd'hui, mais à certains endroits plus que d'autres. Alors, où et pourquoi?
Mais disons, oui, elle est menacée. Les menaces n'ont pas la même ampleur d'un endroit comme à l'autre. Il peut y avoir plusieurs explications à ça. Déjà, les paysages qui sont d'accès difficile sont protégés d'eux-mêmes parce que l'accès y est difficile. Mais aussi, l'autre explication, c'est cette démographie galopante où nous avons besoin des terres pour nourrir les gens, nous avons besoin des terres pour loger les gens et tout naturellement, on a besoin de couper pour installer des gens, pour mettre des infrastructures routières et des infrastructures qui permettent aux gens de pouvoir communiquer. Donc, vous avez là toutes ces raisons et surtout l'activité humaine qui est croissante tous les jours, les populations qui ont besoin de se nourrir, qui sont autant de facteurs qui sont les explications qui permettent de comprendre pourquoi cette biodiversité est attaquée, mais pas au même niveau dans toute la région et même sur tout le globe terrestre.
Alors, où est-ce qu'il y a les menaces les plus fortes sur ces forêts?
Disons fort heureusement, un pays comme le Gabon, qui est heureusement peu peuplé, la biodiversité est moins menacée, moins attaquée là-bas qu'au Cameroun, où nous avons besoin d'espace pour nous loger. En RDC, la situation est moins en termes de population qu'au Cameroun. Vous avez des vastes étendues de forêts en RDC qui ne sont pas encore attaquées, heureusement. Mais il y a urgence de connaître qu'est-ce que ces forêts contiennent en termes de biodiversité. Et je pense que c'est tout là l'intérêt de l'étude qui a été faite en utilisant les parcelles, en utilisant les inventaires forestiers pour essayer de mettre bout à bout ces inventaires et pouvoir faire une liste, peut-être pas exhaustive, mais la plus longue possible de ce qu'elles contiennent, ces forêts, en termes d'espèces végétales, en termes de biodiversité végétale.
Alors, à quoi ça sert de cartographier cette biodiversité et cette vulnérabilité? Quel est l'objectif de cette étude, en fait?
L'objectif est multiple, mais vous devez comprendre que si on est d'accord que les menaces ne sont pas les mêmes partout, il faut déjà connaître où est-ce qu'elles sont plus intensifiées. Il faut intervenir en fonction des urgences, parce qu'on ne peut pas le faire partout au même moment. Alors, il faut des priorités, et je pense que c'est toute l'idée de cartographier les endroits où la vulnérabilité est au point au plus fort, et c'est par là qu'il faut commencer la préservation, les actions de conservation qui s'imposent pour réduire et attirer l'attention des populations, des pouvoirs publics sur les conséquences des activités que nous menons et qui peuvent être regrettables pour la conservation de la biodiversité.
Mais vous pensez que la parole des scientifiques peut être écoutée par les exploitants forestiers, par les États qui cèdent des concessions minières ou des concessions forestières?
Je pense que tout dépend du langage qu'on utilise. La publication que nous venons de faire, si on la jette comme ça au pouvoir public, aux personnes qui doivent décider, aucune action ne sera menée. Mais alors, il faut traduire cette publication en un langage simple que le pouvoir, que le décideur doit pouvoir comprendre et comprendre qu'il y a une action urgente à mener à la suite de ces résultats qu'on démontre. Mais si la publication lui est servie en l'état, alors il ne va rien faire, il n'y aura aucune action qui va être prise, ce qui n'est pas toujours facile parce que traduire les résultats scientifiques dans un langage facile à comprendre par les décideurs, c'est tout un art et il faut pouvoir se faire accompagner dans cet exercice et trouver les bons mots qui traduisent exactement ce qu'on veut faire passer comme message auprès des personnes qui doivent prendre la décision de conservation.
Oui, parce que là, par exemple, parmi les auditeurs de RFI, il y en a des décideurs, comme vous dites. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire?
Mais il faut tout simplement qu'ils comprennent qu'on ne peut pas tout conserver, ça c'est sûr. Mais si on coupe tout, alors les générations futures n'auront rien et on aura compromis définitivement l'avenir de cette population. Donc, il faut savoir, à partir de ces résultats, qui a une décision à prendre.
Merci, Bonaventure Sonquet.
Je vous en prie.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr.
Bola neno bikwenda kuyaba.
grand voyageur Émile Biayanda dans ses pas du vent sur RFI. Le créateur des tambours de Brazza a vécu 6 mois dans la forêt équatoriale auprès des pygmées Mbanga. Un voyage initiatique qui lui a entre autres inspiré ce titre Matsona, extrait de l'album L'Afrique de la forêt. Rien que pour vous sur RFI. Francis Allais, je rappelle que vous êtes un botaniste reconnu internationalement pour vos travaux sur les forêts tropicales. Des forêts qui, si on les laisse tranquilles, ont une capacité incroyable à se régénérer.
Mais oui, évidemment pas contre des énormes abatteuses d'arbres. Mais sinon, c'est des systèmes parfaitement stables et qui sont d'ailleurs extrêmement anciens. Donc oui, c'est très résilient. Vous savez, la résilience en forêt, elle est directement proportionnelle au niveau de la biodiversité. Plus il y a d'espèces, plus c'est résilient. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les plantations d'arbres ne sont pas résilientes du tout. On nous dit que c'est mangé par les scolytes et que c'est la faute du changement climatique. Et ça me fait rigoler, voilà.
Alors l'ironie, c'est que les véritables forêts sont justement la solution pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est d'ailleurs ce que vous proposez à Elon Musk, hein. Le milliardaire qui ne se contente pas d'envoyer des fusées dans l'espace et des robots sur Mars, il a aussi lancé un concours, le plus grand prix de l'histoire, qui vise à attribuer 100 millions de dollars à quiconque trouverait la meilleure technologie pour capter et stocker le CO2. Et vous, vous avez une proposition à faire à Elon Musk.
Je le trouve ridicule, ce bonhomme. Parce qu'en fait, s'il réfléchissait un peu, il verrait qu'il n'y a pas de meilleur capteur et de meilleur stockeur de carbone qu'une forêt primaire. Voilà, les arbres, c'est ça la solution. À côté de ça, il va construire des machines énormes qui vont coûter très cher d'ailleurs en dépenses de CO2. Et non. Moi, je ne fais pas confiance à un mec comme ça.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait comment est-ce qu'on pourrait utiliser les forêts pour capter les quantités de carbone que l'on a besoin de capter?
Ah, j'ai une très bonne question. Il faut les laisser en libre évolution, c'est-à-dire revenir à l'état de forêt primaire. Ça les valorise. Et ça les rend extrêmement résilientes et ça répond à votre question parce que ça capte et ça stocke du carbone. Ajoutez à ça que ça enrichit les sols aussi.
Et avec ou sans Elon Musk, vous avez lancé du coup un projet l'année dernière pour recréer justement une forêt primaire en Europe de l'Ouest, un projet d'environ 70 000 hectares. C'est quand même 7 fois la surface de Paris. Entre la France et l'Allemagne, ce sera dans les Vosges du Nord, c'est ça?
Non, on devrait être sur le terrain pour choisir le site. Et en ce moment, on ne peut pas se déplacer, donc on attend que les conditions soient meilleures.
Et quel est le projet, donc? Rappelez-nous.
Une grande surface, 70 000 hectares. Remarquez, ce n'est pas énorme. Hein, c'est la surface de l'île de Minorque, au milieu de la Méditerranée, c'est-à-dire un tout petit point sur la carte de Méditerranée. 70 000 hectares qui seront à cheval sur la France et un pays voisin, avec des forêts qui sont les plus vieilles possibles. Et ah oui, j'ajoute un point très important, c'est que ça doit être en plaine, pas en montagne. Parce que ce qui a disparu en Europe, c'est les forêts primaires de plaine.
C'est un peu dans la logique du réensauvagement, qui est une logique qui prend de l'ampleur aujourd'hui.
Je ne dirais pas qu'on va essayer de la créer, parce que c'est elle qui se crée elle-même. Une forêt primaire, ce n'est pas compliqué, il suffit de lui foutre la paix. Et elle vient toute seule. Alors, ce n'est pas très rapide, enfin, c'est des durées qui sont très longues pour l'être humain, mais en fait qui sont très courtes. Si vous parlez de 10 siècles pour un géologue, pour lui c'est un clignement d'œil, c'est rien de plus. Alors il faut, c'est pas choisi hein, la durée, c'est pas nous qui la choisissons, c'est la nature qui travaille à ce rythme-là.
Et ça, il faudrait le faire dans de nombreux endroits du monde?
Ah ben écoutez, pour l'instant on a un projet, mais mon rêve c'est que ça marche tellement bien et que ça plaise tellement aux gens qui habitent aux alentours, d'avoir sous les yeux ce spectacle absolument unique au monde, d'une forêt primaire en train de réapparaître, mais j'espère que ça fera des petits. Je constate déjà que mes amis espagnols, ils ont envie de faire la même chose en Espagne, et je les encourage vivement.
On peut faire la même chose en Afrique?
Mais bien entendu, mais en Afrique, il y a encore des forêts primaires, tandis qu'en Europe de l'Ouest, il n'y en a plus.
Donc en Afrique, ça serait presque plus facile?
Ah bah bien plus facile, parce que, attendez, à partir d'un sol nu en Afrique, là on a des chiffres très précis, 7 siècles suffisent, alors que c'est plutôt 10 chez nous. C'est une question de durée de la croissance des arbres dans le cycle annuel. En Afrique, enfin en Afrique tropicale humide, les arbres peuvent pousser n'importe quand, tandis que chez nous, ils poussent 4 mois par an, c'est tout.
Et Francis Allais, vous disiez le spectacle magnifique d'une forêt primaire, parce que vous, c'est votre vie, en fait, cette histoire de forêt primaire. C'est ça qui vous anime depuis des années. Comment est-ce que vous pourriez expliquer la magie que représente une forêt primaire à des gens qui n'y ont jamais mis les pieds ou qui en ont dans leur pays, mais qui ne s'y intéressent pas parce que finalement, ça fait partie de leur environnement quotidien? Il faut savoir la regarder, cette forêt.
Il faut savoir la regarder. Et ceux qui ne savent pas la regarder, souvent, ils en ont peur. Ils n'aiment pas y aller parce que ça leur fait peur. Bon, ça, c'est une question d'empathie. Si on s'intéresse à ces forêts, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas dangereuses. Il ne faut juste pas se perdre. Et elles sont magnifiques. Une chose me frappe, c'est que la beauté, ça n'a aucune place dans le raisonnement scientifique. Que ce soit de la biologie, de la génétique, de l'écologie, etc., on ne parle jamais de beauté. Or, quand vous rentrez dans une forêt primaire, enfin, en tout cas pour moi, la première chose que je ressens, c'est la beauté extraordinaire de ces lieux-là. Des arbres parfaitement droits, une forêt primaire de plaine, hein, des arbres parfaitement droits, extrêmement hauts, avec des diamètres absolument énormes, il faut se mettre à plusieurs pour faire le tour de l'arbre, une canopée très fermée, donc il n'y a pas beaucoup de plantes au sol, puisqu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais c'est des plantes tout à fait étonnantes, celles qui sont en bas. Donc c'est très très beau. Allez vous y promener la nuit, sans lampe. Vous allez voir comme c'est absolument étonnant parce qu'il y a plein d'organismes qui se mettent à briller pendant la nuit, des animaux et des plantes. Et puis les plantes dorment. Enfin bref, le spectacle nocturne de ces forêts-là, c'est difficile à décrire. C'est magnifique. Et j'aimerais bien que dans l'avenir, on donne une place à la beauté dans les raisonnements écologiques.
Merci beaucoup, Francis Allais, d'être passé dans ces pas du vent, d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie. Merci à vous.
C'est la fin de cette émission. Merci à François Porcheron pour sa réalisation et merci à vous, chers auditeurs. Vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous, on adore vous lire. Vous pouvez aussi nous contacter par mail. C'est pas du vent, tout attaché, @rfi.fr. C'est pas du vent est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Podcast Addict, TuneIn ou Apple Podcast. Alors si vous aimez cette émission, donnez-nous la note maximale sur ces applications et postez des commentaires. Cela nous permettra d'être visibles et donc d'être encore plus écoutés grâce à vous. Prochain rendez-vous, c'est pas du vent, demain, même planète, même heure.
Sept milliards de voisins.